partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Aujourd'hui, je vous emmène à l'Université du Cap, en Afrique du Sud. Un des endroits parmi les plus étonnants qu'il m'ait été donné de visiter est la faculté de droit de l'Université du Cap, là-bas, tout au bout de l'Afrique. Étonnant pour le site, l'environnement humain, l'extraordinaire métissage des mœurs et des civilisations. Le Cap, Cape Town ou Kapstadt, comme disent les Afrikaans, est particulière. Elle rassemble sur elle l'influence portugaise, les premiers découvreurs, celle des Huguenots, des mœurs bataves, des mœurs éminemment britanniques, une forte touche d'hindouisme. C'est un lieu de passage ou d'enracinement, de refuge ou d'exil, carrefour des routes maritimes. Cape Town affiche un cosmopolitisme constant, mélangé de farouches revendications identitaires. La vie peut y être très provinciale, même si elle dépasse maintenant les 2 millions d'habitants, et toutes les communautés sont dispersées au gré d'un relief tourmenté et compartimenté par nécessité de paix sociale. Cape Town, ce n'est pas l'Afrique du Sud, encore moins l'Afrique. C'est un lieu à part, stimulant et languide à la fois, comme l'a écrit John Irving, à mi-chemin entre Baltimore et New York, que certains ont également appelé au détour du XXe siècle le Petit Paris. D'abord, il y a le site. Sir Francis Drake, qui s'y connaissait, a dit que c'était le plus beau cap du monde. L'université du Cap est nichée au pied de la Table, la fameuse montagne plate, haute de 1067 mètres, au profil inimitable, sévère, sombre, que l'on aperçoit en mer à plus de 30 000, qu'il faut contourner pour se retrouver dans l'océan Indien. C'est d'une beauté renversante. Chaque jour, chaque matin, en déambulant dans les allées de l'université, je me disais « Regarde, regarde bien, grave ces images, garde-les au fond de toi, car c'est une vision unique, inimitable, une sorte de porte vers un paradis. » La Table domine donc, dans le quartier côtier traditionnel, un campus universitaire très dessiné, à l'origine dans un souci de symétrie architecturale cher à la fin du XIXe siècle. Les bâtiments anciens, à 3 ou 4 étages au maximum, au toit de tuiles rouges, encadrent un temple, copié sur le Parthénon, sorte d'église de la Madeleine un peu dévoyée, peint en jaune et encadré de galeries à colonnes où se déroulent les événements importants de l'université. La vigne vierge recouvre nombre de constructions. De part et d'autre, dans ce campus très paysager à l'italienne, les différents départements universitaires ont leurs locaux. Il y a également les résidences des étudiants et des professeurs. Un peu à l'écart, dans un secteur plus moderne, des restaurants, des magasins, des banques, la poste, le théâtre et un peu en retrait les aménagements sportifs. L'ensemble du campus est assez protégé, gardé, surveillé, maintenant avec des caméras. La préoccupation d'ordre et de sécurité est constante. Le campus est studieux, mais aussi joyeux et très cosmopolite. Beaucoup d'Européens, surtout des Britanniques, bien sûr, avec des alliances universitaires anciennes et très solides. On n'oublie jamais ici que Winston Churchill fit ses débuts de journaliste en Afrique du Sud et gagna les premiers lauriers de son futur prix Nobel de littérature en décrivant peut-être la guerre des Boers, mais aussi les contours et les mœurs de l'Afrique du Sud. Des Nordiques, des Hollandais, des Allemands, beaucoup d'Australiens, car Perth est la capitale la plus proche, à 8000 km, des Néo-Zélandais, des Américains, des Canadiens, Rio est juste de l'autre côté de l'eau, des Japonais, beaucoup d'Indiens. Il ne faut pas oublier que le Mahatma Gandhi est né en Afrique du Sud et la communauté indienne est nombreuse, des Coréens et des Chinois. On parle tout à Cape Town. Chaque mois, un groupe culturel s'empare des activités artistiques et des cuisines. Le restaurant des professeurs mange ainsi chinois, grec, indien, russe, hollandais, allemand, des plats où il y a finalement toujours du bœuf sud-africain et des haricots rouges, tout en déclarant toujours que tout est excellent, quitte à se détruire l'estomac. Fort peu de Français, sauf pour les écoles d'ingénieurs. Le management est aux Australiens et aux Américains, le droit aux Britanniques. Capitone fait la belle aux ingénieurs, aux mathématiciens, au génie civil, à la biologie cellulaire, à la recherche médicale avancée, à la chirurgie, à la pharmacie, au droit de l'environnement et, il ne faut pas l'oublier, à la recherche florale, car l'Afrique du Sud est le seul endroit qui n'ait pas connu la glaciation. Donc il y a des plantes extrêmement rares qui sont étudiées avec beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas par hasard que les nombreuses réunions de l'ONU relatives à la continuation des conventions de protection sur l'Antarctique, sur les océans, sur les plantes, sur l'air, ont lieu très souvent à Cape Town, car il y a ici des spécialistes tout à fait remarquables. Nos hôtes sud-africains sont très attentionnés. Ils se mettent en quatre pour faire apprécier les charmes de la ville qui sont grands. Cape Town est une ville riche, aux quartiers et aux architectures très divers, immergée dans une nature luxuriante. Elle fait un peu penser à Rio de Janeiro avec ses collines, le découpage de ses baies, la complexité de son dessin. Il y a souvent beaucoup de vent au Cap, car la ville est en plein courant d'air, entre deux océans, entre deux mondes, comme une station-service coincée dans un virage. Par une superbe route côtière, on vous emmènera à la pointe Aguileras, à une cinquantaine de kilomètres, voir la vraie extrémité de l'Afrique. Vous reviendrez par les vignobles, rencontrerez des dames au patronyme français qui fabriquent et pouponnent d'excellents chardonnays, de superbes pinots. La production est d'environ 9 millions d'hectolitres par an. Vous irez au village côtier d'Hermanus et sous l'œil moqueur des singes rouges, vous regarderez danser les baleines. Et peut-être, si vous pratiquez la plongée, dûment enfermé dans une vaste et solide cage de fer, vous contemplerez les grands requins blancs qui viennent se reproduire dans les eaux tièdes de la côte des fleurs. Surtout, entre deux séminaires de travail, on vous emmènera sûrement dans les banlieues résidentielles très chics des Boulders ou de Simon's Beach, aux villas somptueuses qui baignent dans une stupéfiante odeur de poisson pourri. Les manchots se sont emparés de la baie. Les petits manchots du Cap, rayés, aventureux, avec, comme les manchots macaroni de Patagonie, des poils follets sur le dessus de la tête, se promènent dans la ville. C'est l'espèce qui remonte le plus au nord. Ils déambulent dans les rues, sur les parkings, vous fixent avec insolence de leurs petits yeux comme des boutons de bottine, traversent au feu rouge, visitent les supermarchés, tournent autour des églises, pondent et couvent dans les jardins et les garages. Malheur à celui qui oublie de fermer la porte de sa cabane de jardin car il ne pourra plus se débarrasser de ces encombrants touristes. Il est interdit de les chasser et de les tuer. La circulation automobile s'en charge. Ils divisent les électeurs, sont devenus une attraction touristique. Un bistrot au bord de la mer s'appelle le Penguin Point Café. Un ami sud-africain m'a dit « ce sont nos kangourous à nous ». Certes, on peut, en Afrique du Sud, faire d'excellentes études à Johannesburg, à Pretoria, voire même à Durban, notamment pour le commerce et le management. Mais Cape Town est une expérience inoubliable par la qualité des études, le sérieux du corps enseignant, l'exotisme du lieu, l'ambiance à la fois un peu désuète et dynamique de la vie sociale et le sentiment de la beauté et de la fragilité de la terre. Vous pouvez consulter les offres d'échange du staff et des étudiants sur www.uct.ac.za. Si votre université a une convention avec l'Université du Cap, si vous parlez anglais et n'avez pas de préjugés, n'hésitez pas, courez-y.